Séquence protestante. La valeur de l'homme. Emmanuel Taïeb.
Le désir de démocratie. Bonjour à tous et toutes. La démocratie fait partie de ces concepts usuels dont une définition précise n'est pas facile. On peut définir la démocratie dans son principe, le pouvoir du peuple. On peut la comprendre aussi comme un ensemble d'institutions ou de règles, mais également comme un régime sous condition qu'il y ait des élections libres et compétitives. On peut la définir comme un état social, par exemple caractérisé par une égalité des conditions ou des droits. Mais on peut peut-être la penser comme un désir de politique, une aspiration, qui verrait la communauté des citoyens placée au cœur de la décision et du processus législatif. Un désir de faire société, donc d'être législateur, un désir d'être sujet politique, avec ou contre l'État. Si c'est un désir, alors cela signifie que la démocratie est d'abord dans les esprits. Mais sous quelle forme ? Car ces aspirations complémentaires disent bien la difficulté de penser la démocratie comme un modèle universel, prédéfini, exportable et applicable partout. Ou si c'était impossible, une forme de gouvernement donnée, variable, selon les situations historiques et sociales. La démocratie serait chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. On pourrait la définir, mais jamais la réduire à un modèle unique. Parler même de démocratie, dit l'historien Quentin Skinner, c'est juger en valeur une forme de régime. La philosophie dite normative s'est confrontée depuis longtemps à cette question des formes démocratiques et à l'opposition possible entre un régime idéalisé universel et des situations historiques variées qui l'altèrent. Elle a notamment réfléchi à la désirabilité de la démocratie et donc à son expansion. Mais jusqu'où étendre la démocratie sans qu'elle se délite et comment la repenser comme catégorie? Nous allons essayer de répondre à ces questions avec mon invité Florent Guénard qui vient de publier aux éditions du Seuil « La démocratie universelle, philosophie d'un modèle politique ». Bonjour Florent Guénard.
Bonjour.
Florent Guénard, vous êtes maître de conférences en philosophie à l'Université de Nantes, spécialiste notamment de Rousseau et des Lumières et directeur de la rédaction du site La Vie des Idées. Alors vous écrivez dans votre ouvrage La démocratie universelle, Florent Guénard, je vous cite, « Les nations se copient, s'imitent, prennent modèle et trouvent un même combat dans l'idée de démocratie ». Alors peut-on dire que la démocratie c'est d'abord un modèle mais en même temps un modèle introuvable et en même temps un modèle qui circule, une espèce de paradoxe? La démocratie semble évidente comme modèle et en même temps assez insaisissable.
Mais oui, mais je pense que c'est exactement ça. C'est-à-dire, vous caractérisez très bien une tension qui habite l'expansion ou la diffusion de la démocratie. C'est-à-dire que il ne s'agit pas, au fond, aujourd'hui, de considérer qu'à un modèle, ce qui serait surplombant à toutes les réalités singulières et qui pourraient s'imposer comme ça, alors un modèle qui serait européen ou disons de manière un peu plus générale occidentale, je pense que cette notion de modèle est totalement inadéquate pour caractériser la démocratisation aujourd'hui, c'est-à-dire ces mouvements, ces processus qui ont lieu dans le monde de diffusion d'un régime démocratique, quelle que soit sa forme d'une certaine manière. Il me semble plutôt qu'il faut prendre modèle autrement, c'est-à-dire que nous prenons modèle et nous prenons modèle les uns sur les autres. Alors c'est valable en politique, c'est valable sans doute dans d'autres domaines, dans des domaines culturels, dans des domaines économiques, il y a une sorte de perméabilité comme ça des nations, un échange d'images, de représentations, d'idées, de concepts, et cet échange-là, eh bien, il faut à mon avis le penser si on veut essayer de comprendre ce que signifie aujourd'hui se démocratiser. Alors, ma réflexion, elle consiste d'une certaine manière à partir de là et à interroger le nouveau sens qu'on doit donner à l'idée de modèle, à l'idée de paradigme, si jamais c'est bien ça, au fond, le modèle aujourd'hui, c'est-à-dire nous prenons modèle les uns sur les autres, sans se dire que nous allons appliquer d'une certaine manière un modèle qui serait préétabli, comme s'il y avait une sorte d'essence démocratique préétablie, mais en se disant qu'au fond, nous nous inspirons de ce qui a pu se passer dans l'histoire. Nous inspirons des textes fondateurs. Voyez par exemple comment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 continue d'une certaine manière à faire modèle. J'ai envie de dire non pas à être un modèle, parce que c'est pas un modèle de démocratie, mais elle fait modèle, parce qu'elle inspire d'une certaine manière des processus démocratiques.
Donc on est dans quelque chose qui, au fond, cette démocratie, si elle n'existe pas comme modèle, c'est quelque chose de très adaptable, ou c'est quoi? C'est de la brocante d'idées, c'est-à-dire qu'il faut... quand on veut monter quelque chose, monter une démocratie, améliorer une démocratie existante, on va aller piocher des idées une boîte à idées démocratiques.
Oui, on peut concevoir ça comme une boîte à idées démocratiques, mais je pense que avant ça, c'est-à-dire qu'avant d'aller y piocher des idées, mais par exemple même précisément des processus institutionnels, telle organisation des chambres, telle organisation du Parlement, etc., etc., je pense qu'on va y chercher une inspiration de principe. C'est-à-dire que la démocratie, c'est quand même d'abord des principes, des valeurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de caractériser ces principes. Alors, il me semble que ces principes, c'est déjà, et c'est ce qui permet de réunir au fond toutes les formes de démocratie que vous avez citées tout à l'heure, dont on, et parfois, c'est vrai qu'on voit pas bien l'unité hein, du concept de démocratie. Mais il y a quand même une unité principielle qui est que une démocratie existe à partir du moment où on considère qu'il n'y a pas de pouvoir politique extérieur à soi. C'est-à-dire que le pouvoir vient de soi.
De soi, c'est-à-dire pas individuellement, de
non,
la communauté.
De la communauté. Ouais. De la communauté. Alors, quelle que soit la manière dont la communauté se construit, ce qui est un autre problème. Hein. Alors là, il faudrait rajouter, si j'ose dire, des principes seconds, comme dit Benjamin Constant. Mais il y a quand même ce principe premier qui est qu'il y a, il n'y a pas de pouvoir extérieur à soi, d'une certaine manière. Et je ne reconnais pas de pouvoir extérieur à soi.
Notamment un pouvoir divin, par exemple.
Pouvoir divin ou pouvoir de l'argent. Mmh. Ou pouvoir de l'argent, évidemment, ou pouvoir économique. Donc, on voit bien, et précisant que ce sont les grands ennemis, d'une certaine manière, les grandes puissances auxquelles la démocratie a affaire, ou a eu affaire dans son histoire. Et continue peut-être même d'avoir affaire.
Pouvoir de l'argent.
Évidemment. Et donc, on peut déjà isoler ce premier principe. Après, si on passe du côté des valeurs, alors là, c'est plus intéressant. Et c'est peut-être même encore plus compliqué que la question des principes. Parce que si on passe du côté des valeurs, alors, quelles sont les valeurs démocratiques? Alors, on va dire, oui, c'est la liberté, c'est le consentement, etc. Ce sont des valeurs qui ont été fondamentales. Et ce sont des valeurs qui continuent, évidemment, à habiter l'esprit démocratique. La question que je pose, c'est de savoir si ces valeurs sont suffisantes pour délimiter la démocratie, hein, ou l'idée démocratique, l'idéal démocratique. Et si, derrière, d'une certaine manière, ces questions de liberté, enfin, cet idéal de liberté, il n'y a pas autre chose qui viendrait nourrir la substance démocratique.
On va rester sur cette question des valeurs. On va écouter un petit extrait d'une chaîne YouTube pour les enfants. Ça s'appelle Un jour une question. C'est très bien fait. Ça date de février 2016. Et la question de cette époque-là, enfin, de ces quelques mois, était: c'est quoi la démocratie?
À quoi ça sert? Ça veut dire quoi, ça?
Pourquoi c'est comme ça?
C'est où?
C'est qui, lui?
Un jour, une question. C'est quoi la démocratie? Le mot démocratie est un nom grec inventé à Athènes il y a 2500 ans. Il est composé de démos, le peuple, et kratos, le pouvoir. Il signifie donc le pouvoir par le peuple. À Athènes, les citoyens exerçaient le pouvoir à tour de rôle, grâce à un tirage au sort. Mais aujourd'hui, la démocratie, c'est toujours comme ça? En fait, non. Aujourd'hui, on vote pour les personnes qui vont prendre des décisions en notre nom. C'est la démocratie représentative. Dans les pays démocratiques, le pouvoir est détenu par plusieurs représentants du peuple. La démocratie, c'est donc le contraire d'une dictature ou d'une monarchie. En France, l'histoire de la démocratie commence ainsi avec la Révolution de 1789. Fini le roi, et fini les pouvoirs concentrés entre les mains d'un seul homme. En démocratie, les pouvoirs sont séparés en trois. Il y a le pouvoir exécutif. Par exemple, en France, c'est le président et son gouvernement qui donnent la direction au pays. Puis, le pouvoir législatif, qui vote les lois. Et enfin, le pouvoir judiciaire qui vérifie que des lois sont bien appliquées. C'est un système qui garantit que les libertés, l'égalité entre tous les citoyens et la justice sont respectées. Car vivre en démocratie, c'est vivre avec des droits. Le droit de se déplacer librement, de pratiquer sa religion, d'exprimer son opinion. Il y a de plus en plus de démocratie dans le monde. Mais de nombreuses personnes sont encore privées de liberté, dans des régimes autoritaires.
La valeur de l'homme, le désir de démocratie, nous sommes en compagnie de Florent Guénard. Alors dans cette explication à la fois bonne et un peu naïve pour les plus jeunes, c'est quand même très... c'est beaucoup la dimension procédurale de la démocratie qui est mise en avant. C'est le réflexe, le premier réflexe qu'on a en fait, pédagogiquement, de délimiter la démocratie à ses procédures ou à des institutions ou au pouvoir séparé.
Oui, alors... Il y a une raison à ça, hein. c'est pas injustifié. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, à la démocratie, on associe d'abord la liberté politique, c'est-à-dire la forme politique que pourrait prendre notre liberté. Et à cette forme politique que peut prendre notre liberté, eh bien, on considère qu'elle passe par la désignation, par la possibilité qui nous est faite de choisir parmi des gouvernants. Bon, et historiquement, d'une certaine manière, la démocratie, c'est aussi imposée comme ça, c'est-à-dire qu'elle a imposé cette définition comme étant celle qui correspond le mieux aux attentes, d'une certaine manière, des individus. Hein. Alors, c'est un point qui est assez important, et c'est vrai qu'il faut sans doute dire qu'il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas un processus formelle de désignation, quelle que soit d'une certaine manière la forme qu'on lui donne. Je ne veux pas rentrer ici dans cette question qui est assez compliquée. Mais il me semble que à vouloir trop se focaliser sur cette définition, qui encore une fois, je le dis, est une condition nécessaire, mais à restreindre la démocratie à cette seule condition formelle, il me semble qu'on rate quelque chose dans la démocratie. Ce qui me fait dire ça, c'est justement le point de vue que j'ai essayé de prendre dans ma réflexion et dans cet ouvrage sur la démocratie universelle. Quand on se place du point de vue des processus de démocratisation, c'est-à-dire quand on interroge la démocratie à partir de ce qui met en route les peuples quand ils vont chercher la démocratie comme ça, quand ils s'intéressent précisément, quand ils vont dans la rue, quand ils s'exposent, parce que pour soulever des pouvoirs autoritaires, il faut s'exposer. On est d'accord ? Ça se fait justement pas par processus électoral, par définition.
Puisqu'il n'existe pas.
Puisqu'il n'existe pas, exactement. Donc il faut aller s'exposer. Et ce qui m'a paru extrêmement intéressant, c'est de voir quelles étaient au fond les valeurs, et les valeurs ici substantielles, pas simplement formelles, les valeurs substantielles qui guidaient justement l'action dans ces processus de révolutionnaires, qui sont des processus de révolution démocratique. Je me suis notamment intéressé à un cas très récent, qui est pour nous, je pense, un cas d'école, qui est le cas tunisien, puisque la Tunisie nous présente une révolution démocratique dont on peut penser qu'elle est en bonne voie, en tout cas qu'elle va vers l'installation d'une démocratie. Ça prendra du temps, il y aura des allers-retours, comme d'habitude, l'histoire est faite de ça. Mais en tout cas, voilà, il y a suffisamment de bonnes indications pour qu'on prenne comme objet d'analyse. Or, si on se souvient bien des événements qui, en 2011, ont déclenché précisément la révolution démocratique tunisienne, c'était des revendications sociales, économiques, qui se sont enclenchées. La révolution démocratique est d'abord née d'un certain nombre de révoltes sociales qui se sont agrégées. Et qui se sont agrégées comment ? Parce que c'est ça la question, comment est-ce que ces révoltes sociales finissent par donner une révolution politique ? C'est quand même une question extrêmement intéressante, parce que je pense que c'est une question en soi intéressante, et puis c'est une question pour nous intéressante, qui nous interrogeons sans cesse sur notre démocratie, son usure, de quoi peut-elle être faite, comment la renouveler, l'améliorer, comment redonner envie d'une certaine manière aux citoyens que nous sommes un peu blasés, redonner envie, redonner foi en nos institutions. Eh bien, il me semble que ce qui est intéressant, c'est de voir que ces révoltes sociales, elles trouvent une sorte de matière qui leur permet de s'agréger et de donner une révolution démocratique, précisément parce que ces révoltes sociales sont une demande démocratique fondamentale d'égalité.
D'égalité, alors, civile, politique, économique, si on reste par exemple sur le cas tunisien, de quoi était, comment était tissée cette étoffe démocratique ou cette demande de démocratie ? C'était une existence comme sujet de droit sociaux, par exemple ?
Mais je pense que c'est une existence comme sujet de droit, alors des droits évidemment politiques, on est d'accord, mais pas seulement des droits politiques. C'est-à-dire pas seulement le droit d'aller désigner les gouvernants lors de processus électoraux, enfin lors d'élections libres et compétitives. Pas seulement ça. C'était des droits évidemment politiques, mais c'était des droits sociaux, des droits économiques. J'ai été frappé de voir qu'un des slogans qui a précisément autour desquels, vous savez, les révoltes sociales ne peuvent s'agréger qu'il y a des slogans qui sont porteurs, puisque c'est le discours évidemment qui agrège à la fois les individus dans des révoltes et les révoltes dans des révolutions. Eh bien, ce discours-là, il a été construit autour de slogans comme égalité, évidemment fraternité. Et là aussi, nous sommes bien dans le prendre modèle, mais aussi dignité. C'est-à-dire dignité, je suis porteur de droit. Je suis porteur de droit, et pas simplement de droit politique. Porteur de droit, ça veut dire aussi j'ai le droit de pouvoir exercer une activité économique par laquelle je vais pouvoir précisément subvenir à mes besoins, aux besoins de mes proches, avoir une reconnaissance sociale, avoir le sentiment de ma propre utilité, c'est-à-dire d'une insertion sociale.
Exister comme sujet,
mais pas seulement sujet de droit. Politique, vous voyez. Sujet, comme sujet de droit, j'ai envie de dire, avec un grand D, enfin avec...
Voilà. Oui, un sujet respectable,
un sujet respectable.
Qui peut opposer un certain nombre de choses au pouvoir, voire participer au pouvoir.
Et l'idée de la révolution démocratique, moi c'est ce qui m'a frappé, c'est que c'est l'idée que pour être un sujet de droit, mais il faut aller chercher d'une certaine manière ces droits-là. C'est-à-dire qu'il faut aller... Et c'est ça la révolution démocratique. C'est-à-dire que je ne peux être véritablement sujet de droit, non pas en attendant d'une certaine manière qu'on me délivre ces droits, on est d'accord, mais en allant moi-même être le moteur, hein, le principe d'obtention de ces droits. Mmh. Et il me semble que c'est ça, cette espèce de raisonnement que j'ai essayé ici de schématiser, bien sûr, mais c'est ce raisonnement qui nous permet de comprendre, au fond, toute la charge passionnel, qui est investi derrière l'idée de démocratie et qui fait que des individus sont prêts à aller se battre en revendiquant précisément démocratie. Alors, les esprits un peu chagrins disent oui, bon, enfin ils disent démocratie, c'est pas ce qu'on entend par là,
ouais, c'est pas très déterminé.
C'est pas très défini, etc. Mais peu importe que ça soit pas très déterminé, pas défini. D'ailleurs, pas très déterminé, moi j'aimerais savoir, j'aimerais bien comprendre parce que c'est au contraire, ça me paraît extrêmement substantiel. Alors évidemment, on peut dire oui, mais des contradictions entre certains droits économiques, certains droits sociaux, certains droits politiques. Bien sûr, on est d'accord que bien sûr que tout ça suppose un lissage, qui est un lissage politique, institutionnel, etc., etc. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas tellement ce sur quoi ça débouche, c'est la dynamique, d'une certaine manière, que ça instaure. Et il me semble qu'elle est extrêmement intéressante. Encore une fois, je le disais, pour comprendre ce mécanisme, enfin ces dynamiques de démocratisation, mais pour comprendre également ce qui fait que nous pouvons être attachés à cette idée-là, démocratie, si difficile à comprendre, mais pour laquelle l'histoire nous manque, on continue à se battre.
Ce qui est intéressant, c'est que on parlait du modèle tout à l'heure. On peut se poser la question de savoir s'il y a vraiment une forme achevée de démocratie. Parce qu'on a utilisé le mot démocratisation. Peut-être qu'il faudrait plutôt employer ce vocable-là, c'est-à-dire parler tout le temps de démocratisation. De la même façon que nous améliorons notre démocratie, les pays qui n'y sont pas sont dans des processus. Est-ce qu'il ne faut pas penser la démocratie plutôt comme un processus que comme un État achevé?
Mais absolument. Je pense que une des erreurs qui, alors, dont on peut faire d'ailleurs parfois le diagnostic, c'est-à-dire on peut dire mais d'où vient cette erreur? Je pense qu'il y a eu une théorie politique un peu excessive justement qui considérait que sa tâche était de définir et de fixer les définitions. Et d'ailleurs on sait quand est-ce qu'elle a, on sait dans quand cette théorie politique a régné, dans quelles circonstances elle a émergé principalement, me semble-t-il, au cours de la guerre froide, parce qu'évidemment face à un adversaire antidémocratique,
voilà, le communisme.
Ouais. Eh bien, on ressentait le besoin, ce qui peut se comprendre, hein, on ressentait le besoin théorique de fixer véritablement ce qu'était une démocratie. Attention, hein, face à un ennemi communiste qui revendiquait aussi d'être une forme de démocratie plus achevée, populaire,
etc.
Bah oui, bien sûr, la démocratie populaire. Donc là, du côté d'une certaine manière des démocraties libérales, il y a eu une attente véritablement de définition de ce qu'était que la démocratie. Il fallait la définir, c'est-à-dire la restreindre aussi, hein, ne pas trop en attendre, considérer qu'un certain nombre d'objectifs, notamment économiques et sociaux, étaient extérieurs à la démocratie, etc., etc. Alors, je pense que nous sommes sortis de cette période-là et que j'irai dans votre sens en disant que il me semble qu'il peut être extrêmement riche de penser à la démocratie en termes de processus et donc en termes d'inachèvement.
Par nature.
C'est-à-dire que nous sommes toujours d'une certaine manière en recherche d'une démocratisation et cette recherche, elle est pas, elle peut pas être définie absolument. Je veux dire, elle peut pas être définie a priori. Elle se constitue étant donné l'histoire que chaque démocratie traverse. Vous voyez, c'est pour ça que je crois qu'il ne faut pas raisonner trop vite en termes d'essence figée de la démocratie. Mais ni dans un sens, ni dans un autre. C'est-à-dire que, pour le dire autrement, ni dans le sens de la participation, ni dans le sens de la représentation. C'est-à-dire que, moi, je ne pense pas que l'essence de la démocratie moderne, ça soit la représentation. Mais je ne pense pas non plus que l'essence de la démocratie tout court, ça soit la participation
directe
que les Athéniens, dont les Athéniens auraient construit le modèle. Et comme si, toutes les fois qu'on s'échappait précisément de ce modèle, on faisait un pas en dehors de la démocratie, un pas de plus en dehors de la démocratie. Je crois pas. Je crois qu'il faut être beaucoup plus humble avec ces grandes idées et se dire que les processus démocratiques doivent s'interroger sur eux-mêmes en fonction de l'histoire, de l'expérience politique qu'ils traversent. Et donc aussi en fonction de l'attente des populations. Hein, puisque je vois pas bien comment on peut construire des processus démocratiques sans tenir compte de l'attente des populations. Des attentes politiques des populations.
Qui elles-mêmes sont évolutives et prises dans l'histoire.
Sont évidemment évolutives.
On va rester sur la démocratie athénienne. Je voudrais qu'on écoute un comédien qui s'appelle Senzou. C'était sur Mediapart. Il explique ce qu'est selon lui une vraie démocratie.
Allez, maintenant, vous le savez, hein, la plus formidable opération d'intoxication de langage de l'histoire, concerne le mot démocratie. Vous l'entendez tous les jours de manière inversée, totalement inversée. Même, alors, je trouvais ça tout à l'heure, j'ai emprunté ce livre de Paul Ricoeur à la médiathèque, un livre touffu, un livre dense sur la politique, sur le politique. Quatrième de couverture, mais ça c'est un exemple parmi les milliers et des milliers. Quatrième de couverture, à côté d'une blablabla, à côté d'une réflexion centrée sur le paradoxe politique et le mal totalitaire, l'auteur d'Histoire et Vérité discute également les réflexions portant sur la justice sociale au sein des démocraties, ce qui lui donne l'occasion. La justice sociale au sein des démocraties. Parle de quoi là ? Au sein des démocraties. Donc voilà, on vit dans cette idée là qu'en fait là, voilà, là, pays développés, la France, l'Allemagne, les États-Unis, etc. Là, ce sont les démocraties. Hein. Vous l'entendez tous les jours. Hein. J'entendais encore la phrase. Je donnerai pas son nom là, mais l'OTAN comme étant l'armée des démocraties. Hein, voilà. Et puis voilà, faire la guerre pour les démocraties. Enfin, c'est... Et puis on va faire un gouvernement mondial, mais il va être démocratique. C'est le mot magique. C'est un mot magique pour voilà, et il est employé de manière inversée et pour vous faire passer toutes les pilules possibles. Alors ce mot est inversé, donc il y a des gens dont je fais partie qui s'évertuent à le remettre à l'endroit.
La valeur de l'homme, le désir de démocratie. Nous sommes en compagnie de Florent Guénard. Alors, ce comédien Senzu donne ensuite la vidéo, enfin la leçon est assez long. Il donne la liste des 25 éléments qui constituent, selon lui, une vraie démocratie. J'en donne quelques-uns. Une égalité des citoyens, donc ce qu'on appelle l'isonomie, une égalité parfaite, la participation effective des citoyens au pouvoir, un principe de révocabilité des dirigeants, etc., etc. Ce qui est intéressant, c'est que c'est assez représentatif, cette vidéo-là, de la critique traditionnelle de la démocratie qui consiste à dire on n'est pas en démocratie, c'est purement formel parce que si je reprends tous ces éléments-là qui caractérisent la démocratie athénienne, on n'est pas du tout dedans. Bon, qu'est-ce qu'on peut répondre en prenant votre propre perspective à cette critique de, au fond, du fait qu'on n'est pas, on ne serait pas en démocratie ?
Bah, on peut répondre plusieurs choses. Alors, la première chose, moi, qui me frappe, moi, ce que j'aimerais répondre à ce comédien, c'est de lui dire, mais c'est bon signe qu'il y ait une insatisfaction démocratique. D'une certaine manière, vous êtes le signe d'une vitalité démocratique. Le fait qu'il y ait une insatisfaction démocratique, c'est-à-dire le fait qu'il y ait toujours une demande supérieure de démocratie. C'est la première chose que j'aimerais spontanément lui répondre. La deuxième chose, c'est que j'aimerais lui dire, quand on fait la liste de ces 25 items là, qui définiraient une démocratie, je comprends pas bien quelle est cette opération intellectuelle. Est-ce que ces items-là décrivent un régime qui a existé ? Est-ce que ces items-là décrivent un régime idéal ? Une sorte d'idée comme ça démocratique dont on attendrait qu'elle s'incarne. Hein, alors est-ce que ça peut s'incarner partout, dans quel type d'universalité on est là, bon, voilà, donc c'est, j'aimerais, voilà, ou est-ce que ça veut dire que, et est-ce que ça veut dire qu'il n'y a de démocratie que si tous ces items sont présents, ou je sais pas moi, s'il en manque deux, on est encore en démocratie ou pas? Donc, et il me semble que mon interlocuteur me répondrait oui, si en manque deux, peut-être qu'on est quand même encore en démocratie, puisqu'on peut pas, sinon on est dans un régime idéal qui n'aura aucune incarnation réelle. Ce qui veut bien dire, et j'en viendrai là au troisième point, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui veut bien dire que nous sommes dans des processus démocratiques et pas simplement dans des définitions achevées. Nous sommes dans des processus qui sont toujours à la recherche d'un supplément de démocratie, parce que l'insatisfaction démocratique, il me semble qu'elle est constante. Si on regarde à travers l'histoire, elle est constante. Alors on va me dire oui, mais il y a des périodes où justement il y a des passions qui renversent là le désir de démocratie. Je suis bien d'accord. Il y a des passions de peur, il y a des passions de violence, etc., etc. Je ne fais pas une histoire enchantée comme ça d'un processus démocratique linéaire. Je sais bien qu'il y a des retours en arrière. Mais si on se place à l'intérieur des processus de démocratisation et si on se place à l'intérieur, si j'ose dire, du désir de démocratie qu'on voit s'exprimer dans ces processus là, il me semble qu'il est sage de dire que nous sommes sur des continuums, nous sommes sur des échelles intensives, et que nous avons à satisfaire notre besoin de démocratie en, je sais pas moi, en sachant si, par exemple, à tel moment de notre histoire, nous ne pourrions pas obtenir un vrai surcroît de démocratie, par exemple, je ne sais pas, aujourd'hui, en interdisant le cumul des mandats, ou en veillant à ce que la vie politique ne soit pas une sorte de carrière professionnelle,
oui, confisquée par
voilà, voilà, voilà. On voit bien que c'est ces choses-là sont assez sensibles aujourd'hui dans l'opinion. Et je ne méprise pas du tout cette opinion-là. Je pense qu'elle renvoie à quelque chose qui frappe profondément les Français, par exemple, qui a le sentiment d'une dépossession extrêmement forte. Hein. Je reviens au principe premier de la démocratie que j'examinais au début de l'émission, qui était « il n'y a pas de pouvoir ». Hein, la démocratie, s'il n'y a pas de pouvoir extérieur à soi ou qui ne viennent pas de soi. Bon, bah, nous voyons bien aujourd'hui que cette espèce de constitution d'une, j'ose dire le mot, mais d'une caste politique, en tout cas c'est comme ça qu'elle est perçue, d'une caste politique qui a aussi ses règles, qui a son mode de fonctionnement, et produit un sentiment de dépossession démocratique extrêmement fort. Bon, ben voilà par exemple une manière d'enrichir notre satisfaction démocratique en travaillant à partir justement d'une insatisfaction présente. Et qui est tout à fait, j'ai envie de dire, qui est tout à fait observable, qu'on peut diagnostiquer.
Mais qui renvoie aussi, au fond, à des éléments historiques très situés, qui renvoient à notre situation à nous. Ce qui veut dire qu'une réflexion d'un Athénien il y a X siècles n'aurait pas du tout été la même. Donc, il faut aussi prendre en compte, nous, cette idée-là d'une historicité des formes démocratiques.
Exactement. Une historicité, mais pas un relativisme. C'est-à-dire que une historicité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous pouvons comparer les histoires. Ça veut dire que nous pouvons nous inspirer de ces histoires-là. Ça veut dire que dans notre insatisfaction démocratique, nous avons à regarder ce qui s'est passé. Mais non pas à regarder ce qui s'est passé, ou ce qui se passe d'ailleurs aujourd'hui même. Non pas en pensant que nous allons y trouver l'essence démocratique, comme si on pouvait faire simplement la liste de tous ces items, comme ça, en disant, bah voilà, ça c'est une démocratie, et Athènes en était une, etc., etc. Bah, quand on regarde ce que les Athéniens écrivaient sur leur démocratie, on est d'accord, hein? Eh ben, on n'a pas le sentiment qu'ils étaient pleinement satisfaits dans une sorte de, comme ça,
ouais,
jardin
d'Éden, voilà,
une sorte de jardin d'Éden démocratique dont dont on serait sorti comme ça malencontreusement, vous voyez. Donc c'est pas du tout ça. Il y a aussi un toute cette histoire est extrêmement romancée d'une certaine manière dans la manière dont on l'aperçoit aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut être avoir conscience de cette historicité, mais trouver le moyen de confronter ces expériences historiques. Trouver le moyen théorique pour nous analystes qui le faisons, mais voir aussi comment précisément cette confrontation des expériences a lieu dans les révolutions démocratiques qui, encore une fois, prennent modèle sur ce qui s'est passé. Moi, j'ai été surpris de voir que la Révolution française servait encore de modèle. Voyez ? Bon, mais alors pourquoi elle sert de modèle ? Qu'est-ce qui sert de modèle ? Là aussi, des théoriciens un peu chagrins pourraient dire oui, mais il y a une méprise totale sur ce qui s'est passé, etc. Oui, mais bien sûr, on est d'accord.
Oui, mais on
n'est pas dans un monde académique.
C'est dans les esprits.
Exactement.
C'est un idéal intériorisé,
exactement,
projeté.
Exactement. Nous ne sommes pas ici dans la sphère académique. C'est pas de ça dont nous parlons. On est d'accord. Donc, il me semble que nous gagnerions là. Hein, nous pourrions introduire une autre perspective sur la démocratie et sortir d'une certaine manière de ce dialogue un peu, qui est un peu un dialogue de sourds entre les partisans du gouvernement représentatif qui disent que aujourd'hui la participation n'est plus possible et les partisans justement de la démocratie directe qui disent que la représentation est une trahison. Je pense qu'il faut sortir de là.
Sachant que c'est en ce moment le débat central sur pour ou contre la professionnalisation et pour redonner un peu plus de pouvoir au peuple. Merci beaucoup Florent Guénard, cette émission s'achève. Je vous remercie beaucoup encore pour votre participation. Je rappelle le titre de votre livre, La démocratie universelle, philosophie d'un modèle politique. C'est paru aux éditions du Seuil dans la collection La couleur des idées. C'est paru en septembre 2016. Merci à Emmanuel Demisco à la technique. On se retrouve dans 15 jours. À bientôt.